Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Musique. Musicopolis. Février 1946, Philadelphie. Voici 4 mois et demi que le compositeur s'est éteint dans une chambre du West Side Hospital de New York. Jusqu'au bout, il avait travaillé sur son 3e concerto pour piano. Son fils avait tracé à l'avance pour lui les barres de mesure et lui-même, contrairement à son habitude, avait écrit le mot « fin » au bout de la dernière portée. Pourtant, il n'a pas tout à fait réussi à terminer sa partition. Il a laissé l'orchestration des 17 dernières mesures inachevée, mais il a confié à son jeune ami Tibor Serly toutes les indications qui lui permettraient de les écrire. Et c'est son élève, fidèle élève, Györgyi Sándor, qui joue pour la création du 8 février 1946 à Philadelphie, avec l'orchestre de la ville dirigé par un compatriote, Eugène Ormandy. Sa création à Philadelphie, le succès est grand pour le 3e et dernier concerto pour piano de Béla Bartók. C'est que les États-Unis commencent à se faire au style du compositeur, sans doute. Ses dernières œuvres ont eu la même chance, en particulier la sonate pour violon seul, créée par Yehudi Menuhin, son commanditaire, et le concerto pour orchestre, donné par Serge Koussevitzky, qu'il avait lui-même commandé pour son orchestre de Boston. La sonate pour violon seul et le concerto pour orchestre, certes, ont eu du succès fin 1944. Et pourtant, la situation de Bartók, depuis qu'il est aux États-Unis, n'a pas toujours été florissante. Le plus grave, c'est qu'il est malade. Raison pour laquelle il a souhaité composer son 3e concerto, pour le laisser en guise d'héritage à son épouse Dita, afin qu'elle ait une œuvre écrite sur mesure dans laquelle elle pourrait se produire. Celui-ci, Bartók avait déjà écrit 2 concertos pour piano. Le premier, de 1926, très rythmique et percussif, a eu moyennement de succès. Le compositeur a reconnu qu'il était, je cite, « un peu difficile, on pourrait même indiquer très difficile, autant pour l'orchestre que pour l'auditoire ». pour le deuxième concerto, achevé en 1931, il a voulu qu'il soit, je le cite à nouveau, « moins hérissé de difficultés pour l'orchestre et avec des matériaux thématiques plus avenants ». L'œuvre est néanmoins d'une grande difficulté pianistique. Voilà qui n'était pas pour effrayer Bartok, lui-même un pianiste tout à fait virtuose. Pour son épouse, en revanche, il fallait quelque chose de différent. Au dire de ceux qui l'ont entendu, Bartok a été un pianiste colossal, aux possibilités immenses et qui se jouait des difficultés. C'est évidemment à sa propre intention qu'il a écrit beaucoup de ses œuvres pour piano, mais on sait qu'il pouvait parfaitement s'adapter aux autres. C'est ce qui transparaît par exemple dans ses nombreux recueils écrits à destination des enfants, en particulier les 6 volumes progressifs de Microcosmos, composés spécialement pour son fils cadet Peter. Bartok est un grand virtuose, son épouse Ditta Pastori, qui a été son élève, n'a pas de moyens exceptionnels, mais c'est une grande mozartienne. Les époux jouent d'ailleurs souvent ensemble les pièces pour deux pianos de Mozart. Lui dit qu'elle joue vraiment bien. Semble-t-il dès 1940 que Bartok a songé à un troisième concerto pour piano. En août de cette année-là, son éditeur Ralph Hawkes l'informe qu'il attend l'œuvre pour 1941. Néanmoins, on n'en entend plus parler. En revanche, cette année 1940, Bartok réalise l'orchestration de la sonate pour deux pianos et percussions. La nouvelle version est créée à Londres en 1942 et le compositeur lui-même avec Ditta, en janvier 1943, en donne la création américaine. Il est acclamé. Et pourtant, ce sera son dernier concert public. Thank you. au début de 1945, un célèbre duo de pianistes, Bartlett and Robinson, désire commander à Bartok un nouveau concerto pour deux pianos. Il accepte. C'est juste après la création de la sonate pour violon et du concerto pour orchestre, et tout a si bien marché. Il vient aussi d'avoir la commande d'un concerto pour alto par William Primrose. Et puis sa santé va mieux. Depuis 1942, Bartok a de gros soucis de santé. Une fièvre qui revient tous les soirs, des douleurs aux épaules, une faiblesse générale. Les médecins semblent impuissants. Ils conseillent de la nourriture et du repos. Autant dire rien du tout, se désespère son épouse Dita, car il mange à peine et est à peu près incapable de repos. Bartok ne se repose pas, comme le demandent les médecins. D'abord, il faut qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, c'est aussi sa nature. Dans une correspondance avec un ami, il proteste « Vous avez écrit dans votre lettre « Si vous n'êtes pas malade, vous travaillez sans cesse. C'est une grande calomnie. Que je sois malade ou non, je travaille sans cesse. » L'année dernière, en mai, alors que j'étais dans un état déplorable, j'ai écrit et préparé le livre sur la musique turque. Les seules périodes où Bartok se sent mieux et où sa maladie semble être guérie ou du moins diminuée d'intensité, c'est lorsqu'il fait des séjours à la campagne. Plusieurs étés de suite, il a été en villégiature dans un centre médical à Saranac Lake, au nord de l'État de New York, près du Québec. Il y est en 1943, c'est là qu'il compose son concerto pour orchestre. Ensuite, il fait un long séjour l'hiver dans les Appalaches, en Caroline du Nord, à Asheville, où il travaille sur le troisième volume de la musique populaire roumaine. Il révise des œuvres anciennes. Il prépare la réduction du concerto pour orchestre, pour piano, pour deux pianos, pour piano à quatre mains. L'été 44, à Saranac Lake, n'est pas aussi profitable. Mais il y retournera néanmoins en 1945. Thank you. Au centre du deuxième mouvement du concerto numéro 3, Bartok a écrit une musique qui semble directement inspirée par la nature. Les connaisseurs des chants d'oiseaux en ont même clairement reconnu certains. Le toï à flanc roux, par exemple. Bartok l'a entendu en avril 44. Il a noté son chant. Il a écrit à son fils Peter que les oiseaux sont sous de printemps, qu'ils font des concerts comme il n'a jamais entendu. Bartok a appelé le mouvement lent de son troisième concerto « Adagio religioso ». Non que Bartok soit religieux, mais il fait ici allusion à un épisode du 15e quatuor de Beethoven. Après que Beethoven a été malade, il a intitulé son mouvement « Chant sacré d'action de grâce d'un convalescent à la divinité ». Peut-être Bartok se sent-il tellement mieux à l'été 1945 qu'il remercie le ciel et la nature de l'avoir guéri, cette fois encore. Il avance sur le concerto avec une énergie incroyable. Saranac Lake, au mois de juillet, Bartok profite de la riche nature américaine. Il calcule le nombre de vibrations par seconde des ailes des oiseaux-mouches. Résultat, environ 90 ou 100, écrit-il à un ami. Il avance en même temps sur le concerto pour piano et le concerto pour alto. Il veut absolument terminer le premier pour l'anniversaire de Dita, le 31 octobre. Depuis quelques mois, elle souffre de dépression. Ce cadeau pourrait peut-être la revigorer. Thank you. Au milieu du mois d'août, alors qu'ils sont à Saranac-Lake, soudain, l'état de santé de Bartók se dégrade, celui de Dita aussi. Ils sont obligés de rentrer d'urgence à New York. Bartók sait qu'à présent, ses jours sont comptés. Il travaille avec acharnement. Ce concerto pour son épouse est ce qui lui assurera un avenir. Il travaille au lit, sur une planche à dessin. Il est de plus en plus faible, maigre, diaphane. Le 22 septembre, on le transporte à l'hôpital. Il dit plusieurs fois « Il est bien dommage que je doive partir alors que ma valise est encore pleine ». Il meurt le 26, entouré de sa femme et de son fils. Il lui restait seulement 17 mesures à orchestrer. Le final du troisième concerto pour piano de Béla Bartók, Jean et Flamme Bavouzet au piano avec l'orchestre philharmonique de la BBC dirigé par Gianandrea Noseda. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Julien Douminck pour le mixage et Max Dosolm pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.